Cinglé de musicole, à vos cassettes.
La rediffusion aujourd'hui de l'émission que le 10 mars dernier, nous avions consacrée après sa disparition à Jean-Christophe Averti, extraverti.
Alors les images que je fabrique sont des images jamais vues, du moins par moi. Je pense qu'on a parlé des autres, ils n'ont pas vu non plus, si bien que je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas mes émissions. Ils devraient même, si ça leur plaît pas, être contents de voir quelque chose de différent.
Il faisait semblant de s'étonner, mais ça vous intéresse, les années 60? Vous ne les avez pas vécues. Averti proclamait qu'il ne datait que de lui-même. Néanmoins, il a passé des milliers d'heures à recueillir la parole des vieux artistes, des vieux musiciens, à chiner dans les brocantes jusqu'à transformer sa maison en une affolante caverne d'Ali Baba. Oui, les années 60 nous intéressent, comme nous intéressent d'ailleurs toutes les années. On regardait alors à la télévision, les yeux écarquillés, s'envoler des personnages, des images nouvelles. Jean-Christophe Averti indiquait une des directions qu'elle pouvait prendre. À l'inverse de ceux nombreux qui se scandalisaient de ses facéties, le vieux François Mauriac l'encourageait à se débrider et à se déchaîner encore davantage. À chacun sa nature, disait-il, ce que nous devons juger en lui, c'est un jeune homme qui s'adonne à un art jeune. C'est la démonstration faite avec éclat de la spécificité qui s'impose à la télévision. Sur les chemins que celle-ci emprunta finalement, Averti n'avait plus sa place. Il avait encore un poste chez lui, mais il disait qu'il fuyait comme un égout et qu'il tâchait la moquette. Il aurait pu finir sans travail, un peu comme Méliès ou Orson Welles qu'il admirait tant. Heureusement, Radio France a gardé une de ses prérogatives, le droit d'asile. Dans les cinglés du music hall qui durèrent de 1978 à 2006, le débit d'Averti nous était aussi immédiatement reconnaissable que ses images. Lui reste aussi l'avenir. La course à l'audience de masse lui a été fatale, mais l'ère numérique peut être favorable à celui qui, dès 1960, adoptait le trucage électronique.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Sylvie Pierre, bonjour.
Bonjour.
Qui a publié aux éditions de l'INA un livre sur Jean Darcy.
Jean Darcy, directeur des programmes à la télévision française, 1952-1960.
Et qu'appréciait Jean-Christophe Averti? Sylvie Pierre, qui publie au mois d'avril un livre sur Jean-Christophe Averti, sa biographie, parce que l'INA avait conclu un accord, une convention sur la conservation des archives papier de Jean-Christophe Averti. Et avec ces archives, et aussi beaucoup de conversations en sa compagnie, vous avez bâti cet exploit de faire le portrait irréalisable d'un homme insaisissable.
Oui, j'ai rencontré Jean-Christophe Averti lors de mes travaux sur Jean Darcy. Et c'est une relation de confiance, c'est très important de le souligner, qui s'est créée entre nous et qui a abouti à cet ouvrage. Et effectivement, ce sont plusieurs années de travail, d'entretien, d'échange, de consultation des archives à l'INA, qui a eu la gentillesse de me mettre à disposition ces archives audiovisuelles. Et puis également la consultation des archives que possède Jean-Christophe Averti, car c'est un grand archiviste, donc il a consigné tous les courriers des téléspectateurs, toutes les lettres qu'il a pu recevoir de Abel Gance par exemple, Jacques Prévert et d'autres. Et j'ai donc fait un travail pour reconstituer sa trajectoire personnelle, son enfance, son adolescence, la manière dont il construit son imaginaire, son musée imaginaire, et la manière dont il construit aussi son art télévisuel.
Enfance, adolescence dans le 14e arrondissement de Paris. Et puis, il a été très marqué, outre sa famille, par la fréquentation du lycée Louis-le-Grand, plus tard de Saint-Germain-des-Prés. Il dit que avant 1948, tout ce qu'il a vu a été déterminant. Le jazz au l'orientais, le soulier de satin, la comédie française, il s'est endormi parce qu'il faisait plus chaud que d'habitude dans les lieux de théâtre pendant l'occupation. Et Yves Montand, qu'il a vu en spectacle dès 1946 et qui sera un habitué de ses émissions de télé et de radio.
Moi, J'aime le music-hall, ses jongleurs, ses danseuses légères et le public qui rigole quand il voit des petits chiens blancs portant faux col.
Moi, j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment le music-hall. Jacques Crépineau et Jean-Christophe Averty vous présentent Les Cinglés du music-hall, une émission réservée à ceux qui aiment vraiment le music-hall. Mise en onde de Madame Monique Bailly. Ce n'est pas une mince tâche, mais quel plaisir de m'attaquer trois jours durant et consécutivement à notre ami Yves Montand. Ah, lorsque j'ai rédigé ces notes, les mots m'ont soudain manqué sous la machine à écrire. Et maintenant, ma voix déjà peu assurée fléchit un peu plus. Devant moi, alors que j'écrivais ces pauvres lignes, Yves Montand en photographie me regardait d'un œil dubitatif, avec l'air de se demander « Comment vas-tu t'en tirer ?» Le vendredi 18 février 1944, tu débutes à l'ABC dans un spectacle dont la vedette est André Dassary et où une chanteuse nommée Betty Spell interprète une chanson de Gaucho. Et dire que depuis presque deux ans, ton cheval de bataille est une chanson de cow-boy dans les plaines du Far West que t'avait écrit en 1938 le compositeur aveugle Charles Hummel et qui fut ton vrai premier grand succès à l'Alcazar de Marseille en 1939 et que tu n'enregistreras bien plus tard qu'en février 1946, accompagné par l'orchestre de Guy Louis Parts, bien sûr. Un disque Odéon 281 662 qui n'a jamais été réédité. Cinglé de music-hall à vos cassettes dans les plaines du Far West par Yves Montand, la version d'origine.
Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. Et leur chant...
Tout ce qui lui permet de s'échapper pendant cette jeunesse, pendant l'occupation difficile, il le met à profit. Et alors, il y a Ubu, qui l'a découvert, on en reparlera dès ses années de Louis le Grand. Il y a le jazz et le surréalisme.
Oui, le surréalisme, il s'y intéresse très tôt. C'est même frappant, car adolescent, à 19 ans, il répond à un questionnaire qu'Alexandrion Sarran a diffusé pour recruter de nouvelles recrues autour d'André Breton. Et il répond donc à ce questionnaire et il dit « J'attends du surréalisme une régénération permanente, une métamorphose totale de la condition humaine, et aussi et surtout le maintien et la défense de la liberté. Ce serait restreindre l'action surréaliste que de prétendre lui assigner un domaine particulier. » Et c'est quelque part une profession de foi. Pour lui, le surréalisme, ça va être un moyen, une voie pour affirmer une liberté, liberté de création qu'il va défendre tout au long de sa carrière à la télévision. Et puis aussi mettre à l'image les œuvres des surréalistes. Et son répertoire est un répertoire surréaliste. Lautréamont, Roussel,
et ça m'étonne, n'est pas loin, à certains égards, du collage. Diplôme de l'IDEC et titre de réalisateur, il faut un titre à la télévision en 1956, ça ne suffit pas quand même pour assurer des travaux intéressants. Il fait un peu tout à la télévision à ses débuts.
Alors oui, dans son parcours, il est diplômé de l'ITEC, donc l'école de cinéma, très difficile à intégrer à l'époque. Et il fait une tentative dans le cinéma, puisqu'il est assistant réalisateur d'André Berthomieux pour Pigalle Saint-Germain-des-Prés avec Ray Ventura. Et puis, par hasard, il entre à la télévision. Et il va pendant 10 années, des années 1952, il entre en 52, jusqu'aux années 62, où il va réaliser Les Raisins Verts. Il va s'exercer à plusieurs registres, mais en attendant de faire l'œuvre, Les Raisins Verts et son œuvre, il dit après je peux mourir. Et donc il va à la fois participer à 5 colonnes à la une, à Martin Martin émission jeunesse, faire quelques documentaires et des courts-métrages. Et le premier court-métrage à la télévision, c'est très intéressant, c'est Vacances à la mer. Et c'est déjà, on a les prémices de son écriture où il mêle le rêve, le merveilleux, et c'est une évocation de ces lieux de jeunesse qui l'ont beaucoup marqué.
Il n'allait sur des lieux de vacances que pour faire des tournages, parce que à partir du milieu des années 40, a-t-il déclaré « Je ne prendrai plus de vacances ». Une productrice, Michèle Arnaud, le prend sous son aile avec Histoire de sourire, et puis Les Raisins Verts que vous citiez. Les Raisins Verts. Alors là, c'est plein d'humour noir. À l'époque de Bonne Nuit les Petits, on parlait du marchand de sable. Le marchand de sable va passer. Ben pour Averti, c'est simple. Le marchand de sable, c'est des kilos de sable qui tombent sur un berceau. Et tout à l'avenant.
Oui, les raisins verts, c'est l'illustration de la mise en place, l'inspiration de l'humour noir. L'humour noir, c'est une façon de dénoncer quelque part le quotidien. Donc dans le raisin, dans les raisins verts, il va provoquer le téléspectateur des années 60. Il faut bien resituer le contexte et il va mettre à l'antenne des balais d'estropiés, une femme enceinte qui réclame, une religieuse enceinte qui réclame le docteur Ouginot. Il fait chanter des vedettes plutôt peu connues, les sœurs Rita, mais aussi Mademoiselle Petit, donc des gloires fanées, des artistes sans talent, pour tourner en dérision à la fois le showbiz, mais aussi dénoncer quelque part la religion. Il est laïque, il dénonce la religion, il dénonce le racisme, les inégalités par le biais de l'humour.
Et il passe même à la moulinette les bébés en celluloïde, c'est l'époque où sa fille crie trop fort la nuit. Et tout ça avec l'usage des trucages électroniques. Vous dites dans votre livre, Sylvie Pierre, qu'il en fait le meilleur usage dès 1960.
Lorsque l'on se sert de l'équipement vidéo, c'est-à-dire l'équipement électronique, des caméras de télévision, et lorsque l'on utilise les truqueurs et les trucages non plus comme un alphabet mais comme un vocabulaire, à ce moment-là, il naît forcément ou naîtra, je ne suis jamais dedans qu'un farfouilleur et un pionnier, mais naîtra un jour un langage télévisuel pur qui sera composé de signes et d'images fixes et de trucages. Enfin bref, si vous voulez, on est actuellement dans l'enfance de la télévision qui est encore prisonnière de ses origines cinématographiques et théâtrales. Un jour, on arrivera à parler télévision comme on écrit un livre ou comme on imprime un journal.
Mise en page, plus encore que mise en scène. Grammaire.
Oui, on peut dire que Jean-Christophe Averti a inventé un langage télévisuel, une grammaire télévisuelle. Il a fait le choix du rêve, du merveilleux, d'une écriture très épurée, et il s'est démarqué donc dès les années 60 de l'école des Buts de Chaumont qui s'imposait à la télévision
qui
a édicté les règles d'or en 1963.
Mais un écran d'Averti, ça ressemble plus à une BD, ça ressemble plus même à un journal où le regard va de colonne en colonne un peu au hasard.
Voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise l'image de télévision et dans cette image, il la déconstruit, il va la composer, la recomposer dans un petit peu comme dans sa voix avec une grande rapidité. Donc il crée des plans, il déconstruit des plans, il associe, il dissocie et ce qui fait que à l'image, un peu comme les miniatures du Moyen-Âge, à l'image, il y a une multitude d'objets, des faits, de signes qui se télescopent.
La télé, c'est un tableau vivant à la maison qui doit vous donner des gifles plastiques.
Je pense que la télévision est un peu huissière. Elle constate que de telle heure à telle heure, telle personne sont passées devant telle et telle caméra, et puis c'est tout. Et on se contente de peu. Je pense que la télévision, une des voies principales de la télévision, c'est de faire rêver. Et le rêve se fait avec des images. La vie est assez monotone et assez sinistre, assez morose. Alors les images que je fabrique sont des images jamais vues, du moins par moi, je pense qu'on n'a pas les autres, ils n'ont pas vu non plus, si bien que je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas mes émissions. Ils devraient même, si ça ne leur plaît pas, être contents de voir quelque chose de différent.
Et ils n'ont pas honte à une heure où les parents peuvent être devant la télévision. Ah non ! 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 Maintenant, une petite fille en train d'embrasser sa maman, maintenant ! Ah non ! Non, il y a des limites tout de même !
C'est un scandale! Arrêtez, Averti! Arrêtez!
Assez, Averti!
C'est révoltant, mais j'aime!
Vous avez devant vous, monsieur Jean-Christophe Averti, le responsable de cette émission. Pendant une minute, vous allez pouvoir l'insulter et lui dire tout le mal que vous pensez de lui. Pour vous aider à trouver vos mots dans la colère, veuillez répéter après moi. Imbécile, salopard, diminué, pauvre type, crétin.
C'est pas de ma faute. J'étais malade quand j'étais petit.
Mais jamais un réalisateur de télé, écrivez-vous, Sylvie Pierre, n'a reçu autant de courriers. Et vous avez plongé, vous, dans ce courrier.
C'est certainement un des réalisateurs à avoir reçu des dizaines de lettres de téléspectateurs de toute la France, alors que la télévision pénètre dans les foyers à cette époque. Il y a une chaîne de télévision, donc les téléspectateurs sont obligés de regarder un seul programme. Et à l'époque, alors que on peut penser que le téléspectateur est passif, mais en fait il est actif, il réagit et il attend que le téléspectateur réagisse. C'est donc l'analyse des courriers montre que cette interaction, cette réaction des téléspectateurs montre que effectivement il fait réagir le public.
Et... Rien n'est plus irrespectueux vis-à-vis du public que de sous-estimer son intelligence. Aussi prépare-t-il très précisément. Maurice Chevalier disait, on le croirait farfelu, son travail est aussi minutieux, pensé, préparé que celui d'Ernst Lubitsch, avec un groupe de techniciens qui lui sont associés très très régulièrement.
Oui, Jean-Christophe Averty ne travaille pas seul. Il pense, il conçoit l'émission, il fait appel à son répertoire littéraire, artistique, poétique, mais il est entouré d'une équipe très fidèle. Son équipe va travailler avec lui pendant plus de 20 ans, et notamment Max Debrenne pour les effets spéciaux, Claude Veillot, c'est les scénarios, Dirk Sanders, et puis Jean Guélis pour la chorégraphie, parce qu'il invite aussi des chorégraphes de la danse, et Jean-Claude Pelletier pour la musique. Donc c'est un travail d'équipe.
Et alors l'ascension en équipe pour un sommet, Noël 1965, Uburoy, il avait découvert Alfred Jarry au lycée Louis le Grand, et il travaille d'arrache-pied.
Cette émission-là, surtout, a réclamé une conférence qui n'a pas arrêté pendant 8 jours. Mmh. Chez moi, on a mangé de la choucroute et du vin blanc. Il y avait une quinzaine de techniciens, chef opérateur, Lucien Billard. En fait, tout le monde était là, le décorateur, tout le monde. Je leur faisais un cours au tableau noir et tous les plans étaient dessinés de manière à ce que ça aille plus vite, que les gens comprennent.
Alors là, maintenant, ce que nous voyons, après les croquis, carnets originaux...
Alors ensuite, vous avez eu le dessin, c'est-à-dire le produit de mon imagination délirante. Et à droite, c'est la résolution technique et électronique. C'est-à-dire que ces photographies ont été prises sur le tube de télévision. Donc pour faire cette image, une image synthétique qui résume une action et un parallélisme du temps et de l'espace, des mouvements et des voix, il faut 6 caméras. Et les intégrer, comme on fait une mise en page de journal.
Alors chacune des images, si je comprends bien, chacune des images qu'on voit là correspond à une caméra. Et une ensuite, caméra. Vous fondez tout ça, vous mélangez.
Vous savez, il y a le cache, le contre-cache, les petites choses blanches sont remplacées par des photographies. Enfin, c'est une mise en scène telle que Méliès aurait dû en faire s'il avait vécu maintenant. Je le regrette.
Oh, voilà du joli, Père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou.
Que ne vous assomme-je, Mère Ubu?
Ce n'est pas moi, Père Ubu. C'est un autre qu'il faudrait assassiner.
De par ma chandelle verte, je ne comprends pas.
Comment, Père Ubu? Vous êtes content de votre sort?
De par ma chandelle verte, merde, madame, certes, oui, je suis content.
Le Père Ubu, c'est Jean Bouise, la Mère Ubu, c'est Rosy Vart. Bon, alors, il faut vous nous expliquer. Il y a une bande-son à part. Mais comment est organisée l'image cache contre cache? Oui, d'accord, mais...
Alors, le principe dans Ubu, c'est qu'il épure l'écran de tout accessoire réaliste et il reconsidère le rôle de comédien. Les comédiens sont des marionnettes dans l'écran, impersonnel. Il a composé Ubu comme une bande dessinée, avec une mise en scène à plat.
C'est-à-dire en fait, qu'il y a des cases sur l'écran?
C'est une intégration de plans, plusieurs plans, et plusieurs scènes se passent en même temps. Donc, en fonction des caractères, lorsque Ubu a des vices, on le voit énorme. Lorsqu'il est timide, il redevient petit. Et à l'écran, un peu comme aujourd'hui, un écran d'ordinateur, vous avez des fenêtres. Donc, il y a des fenêtres. Et dans ces fenêtres, vous avez des scènes qui se passent en même temps. Et donc, c'est pour ça, c'est pourquoi il dit le téléspectateur doit être assis et regarder la télévision et ne pas faire autre chose.
Oui, mais le téléspectateur assis est même invité au moment de la diffusion à Noël 65 du Burois à téléphoner. La rédaction de Paris Jour a installé au standard Jean-Christophe Averty qui réagit au coup de fil.
Oui, ça c'est son souci, toujours d'être à l'écoute et également d'expliquer. Il intervient souvent à la télévision pour, en fait, dans un rôle pédagogique, pour expliquer ce qu'il a fait avec moi. D'ailleurs, il a voulu expliquer, pour transmettre, expliquer son travail, expliquer sa conception de l'image, sa conception. Et très souvent, il intervient, et il fait interagir des téléspectateurs pour expliquer les trucages, pour expliquer... Alors, les collages.
Dans vos conversations, il accompagnait ses propos de dessins. Vous m'avez apporté le carnet d'une année de conversation avec lui. Alors, il vous fait sans arrêt des dessins pour que vous saisissiez bien visuellement.
C'est ça, pour m'expliquer sa conception, sa pensée, ses registres. Alors, il a une énorme... Il faut le dire, Jean-Christophe Averty, c'est quelqu'un qui a une culture très, très élargie, dans des registres à la fois littéraires, poétiques, musicaux, surréalistes. Et il a, pour expliquer effectivement sa pensée, ses registres, et même simplement Méliès, Garmont Montparnasse, il fait un dessin.
Il m'a
fait
un dessin, le kiosque, qui ruinait, tenait la boutique des journaux.
Donc, c'est un graphiste. À la télévision, il a utilisé le collage, le graphisme, je l'explique, c'est fantastique, c'est passionnant, c'est un créateur, quelqu'un qui a inventé et qui veut aussi transmettre, mais il utilise ce dessin pour expliquer.
Cultivé, dites-vous, mais il n'aurait peut-être pas aimé le mot. Il a toujours eu le soin de s'adresser au grand public, oui, qu'il distinguait de la masse informe, et dans le grand public, aux individus, les uns après les autres, comme s'il les prenait par le bouton de la veste. Et si le grand public s'est souvenu de lui, c'est aussi à cause des émissions de variétés. Il n'a jamais considéré les variétés comme un genre mineur. Il y a eu un grand show que vous racontez en détail dans votre livre, là, aux éditions de Lila, qui paraît, je le rappelle, le mois prochain, avec Johnny et Sylvie. Alors là, l'objet de tous ses soins pendant des mois.
Oui, pour lui, les variétés, la musique, le jazz ont autant d'importance que des dramatiques, des émissions ou des films. Il a fait un film sur Dali, fantastique. Donc les variétés ont autant d'importance. Il y accorde autant d'importance. Il écrit l'émission, il pense l'émission et les chanteurs sont quelque part au service de l'émission. Il chante en playback et donc il a inventé le clip vidéo, c'est l'inventeur du clip vidéo, de la forme brève, rapide, hein, comme son rythme, il parle, il va vite, et dans ses variétés, c'est aussi très intéressant de pouvoir regarder avec attention la richesse des plans, de la multitude de plans, de références, et ce qui s'entrechoque et se reconstitue.
Et la multitude des artistes, puisque ça va à un extrême de Maurice Chevalier que je citais, et Tino Rossi, à un autre, Gainsbourg et Françoise Hardy.
Quand il vous demandait de participer à l'une de ses émissions, c'était lui la vedette. Ce n'était pas les chanteurs qui l'invitaient ou les acteurs qui l'invitaient à venir. C'était lui qui faisait le spectacle, sans le vouloir, j'imagine. Mais je savais que j'allais passer un moment extrêmement original.
Silence au plateau !
Avec quelqu'un qui, en effet, par moments, avait des énervements. Mais pour moi, ces énervements, ça me faisait rire plutôt qu'autre chose. Et puis, de toute façon, je savais que ces énervements me concernaient rarement. Sauf une fois où il me regarde, il me fait « Secoue-toi, secoue-toi !» Ça m'est resté, ça.
La tourmette, un peu plus vite.
Est-ce que tu crois que tu as besoin de moi, là ?
Mais oui, bien sûr, t'es indispensable aux images, voyons. Sinon, mon métier n'existerait pas sans toi, voyons. Enfin, tu t'en doutes bien.
Je peux même dire qu'un tournage sans une colère de Jean-Christophe n'aurait pas été un tournage de Jean-Christophe.
Quand je vous parle, écoutez-moi les caméras, je vous dis d'élargir, faites-le, nom de Dieu. Moi, j'interviens dans la mise en scène et ça se voit.
Oui.
Alors, vous êtes donc... vous êtes gêné par la présence des artistes? Non, attendez, j'en viens aux artistes. Alors, les plateaux, généralement, sont vides. Pas de public, car j'ai horreur de ça. La télévision est en fait pour les spectateurs et non pas pour des gens assis dans une salle. Je me passerai donc de vous. Alors, si vous voulez partir, vous pouvez.
Bon, alors on fait sortir le public, les artistes, qu'est-ce qui reste?
Alors, on fait sortir tous les décors, j'en ai pas besoin.
Oui.
Bien, ayant horreur de la musique en direct, car elle n'est jamais bien enregistrée, Je suis un fanatique du playback.
4 assistants contre 14, non, 4 en douille. La base est faite complètement. Il fait de la culture, nom de Dieu. Portez des choux.
Regarde. Si tu es Dieu, comment on le dit? Dis-moi, pourquoi nous l'as-tu repris? Réponds-moi.
Je me retrouve très facilement avec un caméraman sur 5. Avec plus de machinistes, plus d'électriciens, plus d'ingénieurs du son. C'est un désert par moment. Parce que je comprends très bien qu'ils ne puissent pas me supporter. Pas chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Est-ce que tu te trouves insupportable?
Oui, complètement insupportable dans la mesure où je me contredis sans arrêt et je ne crois pas un mot de ce que je dis.
Oui, mais enfin, si le vide se fait autour d'Avertis, et pas seulement pour ces raisons que met en avant le documentaire qui a été projeté récemment de Mireille Dumas, dont on a entendu un extrait, c'est parce que la télévision a changé. L'ORTF éclatant, ça a été pour le camarade Averti le coup de grâce. Mais avant la fin de l'ORTF, après la fin de l'ORTF, il entendait un langage de la part des directions qui lui déplaisait. Cible, masse, sondage.
Oui, certainement que les logiques ont changé dans les années 50. C'est une logique culturelle. La télévision a une logique culturelle et de culture populaire. Et puis, progressivement, au fur et à mesure que l'outil s'est imposé, s'est développé, les logiques ont changé et sont allées vers des logiques économiques, des logiques effectivement d'audimat où il est question de répondre davantage aux besoins du public que lui donner à voir, à comprendre, à découvrir.
Qu'est-ce qu'il disait des sondages?
Ah, pour lui, on ne sonde que les malades. Il disait, on ne sonde que les malades. Donc, il ne s'agit pas de répondre à la demande. Il disait, je ne suis pas un larbin au service du public. La télévision est un centre culturel. Donc, je montre ce que j'aime, mon répertoire, j'explique et je donne à voir.
Votre livre bientôt aux éditions de l'INA, biographie de Jean-Christophe Averti. Heureusement, il y avait le refuge, le droit d'asile de Radio France dès 1978 jusqu'à 2006.
J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment le musical. Jacques Crépineau et Jean-Christophe Averti vous présentent Les Cinglés du musical, une émission réservée à ceux qui aiment vraiment le musical, mise en onde de Madame Monique Bailly.
Au troisième rang, pas trop loin, et déjà v'là le rideau rouge qui bouge, bouge. L'orchestre attaque un air ancien du temps de Mayol. Bravo, c'est drôle, très très drôle.
Ray Ventura est mort vendredi 30 mars d'une crise cardiaque en l'île Palma de Majorque, où celui qui fut le plus prestigieux des chefs d'orchestre de jazz français vivait retiré depuis près de 3 ans. Cette tragique information à laquelle beaucoup de ses amis s'attendaient, hélas, car nous le savions malade et épuisé, a bouleversé tous ceux qui, dans le monde entier, associaient depuis près de 50 ans le nom de Ray Ventura à un certain art de vivre, à une certaine manière humoristique et caustique de prendre les choses de ce bas monde qui ne sont que rarement gais, à un certain optimisme à tout craint que seuls ceux qui ont joué ou aimé le jazz possèdent de naissance, comme une grâce. Cette émission n'a pas pour habitude de saluer à la va-vite les grands hommes de music-hall qui tombent et profiter sur l'instant de leur brusque disparition pour assurer coûte que coûte et tant bien que mal un programme à leur mémoire. Je crois qu'une certaine sérénité, qu'un nécessaire recul s'impose d'eux-mêmes, ne serait-ce que par décence. Et puis, sans aucun doute, en ce qui me concerne, le refus absolu d'admettre la mort, d'admettre leur mort.
Et je remercie toute l'équipe de La Marge de l'Histoire qui s'est associée à cet hommage. Valérie Aestaraï, Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco à la technique, Florent Beauvalet.